Alors, bienvenue dans cette table ronde donc consacrée au futur possible de la science-fiction. Parmi nos invités, nous avons donc Pierre Bordage que nous attendons, Emmanuel Chastelière, donc ici présent, donc qui est romancier et traducteur, créateur et rédacteur en chef de Elbakine.net et qui est auteur du roman Célestopole dont nous parlerons certainement tout à l'heure. Nous avons également Jean Krug. C'est bon, Jean, je prononce bien ? Bon, voilà. Alors, Jean Krug, qui est écrivain, qui est auteur donc chez Critique, et qui a publié en 2021 Le Champ des Glaces. Et en fait, Jean a une particularité, c'est que c'est aussi un scientifique, puisqu'il est glaciologue. Et je pense qu'il va peut-être certainement nous parler peut-être de la fonte des glaces, enfin voilà, sur la fin des temps. Non, pardon, on verra ça après. Et James Morrow, donc James est écrivain américain. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu spécialisé dans la satire des religions, mais aussi de l'humanisme et de l'athéisme. Et puis, c'est quelqu'un qui a obtenu le prix World Fantasy, le prix de la... Donc, prix de la... De la du court roman, c'est le prix Hugo, c'est ça ? Que je ne dise pas de bêtises ? Hein, c'est ça ? Voilà. Et puis... Ah non, c'était Locus ? Pardon. D'accord. Ah, je suis persuadée que... Bon, d'accord, eh bien... Ah, ok, voilà, c'était ça. Bon, alors, pardon, j'ai anticipé un petit peu. Alors... très connu pour la trilogie de Jéhovah et L'Arbre à rêve. Et puis, je voulais simplement dire à James, bon, Pierre n'est pas là, mais je lui redirai tout à l'heure, que ma toute première table ronde, en fait, c'était aux Utopiales avec James et Pierre et que j'étais hyper impressionnée. Donc, voilà, 10 ans plus tard, je suis très, très contente de refaire une table ronde avec lui. Voilà. Bien, alors, on entame sans Pierre, peut-être ? Hein ? Lionel ? Oui ? D'accord. Je le vois pas arriver, mais bon, il devrait pas tarder. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous définissez cette notion de futur possible ? Parce que nous parlons ici, bien sûr, de science-fiction, mais est-ce que ces futurs possibles se situent entre anticipation et science-fiction, ou entre prospective et science-fiction ? C'est-à-dire entre réel, finalement, et science-fiction. Qu'est-ce que c'est pour vous un futur possible? Emmanuel,
c'est pour moi. Oui, un futur possible, pour moi, je dirais que c'est avant tout quelque chose qui puisse être une vision, on va dire, crédible et tangible dans l'univers que l'on crée. Donc après, voilà, c'est pour ça qu'il y a plein effectivement de futurs possibles, selon qu'on oriente ça, effectivement, plus vers l'anticipation pure et dure. Donc quelque chose de très ancré dans ce qui est déjà notre réalité, ou on choisisse plutôt de s'envoler vers les étoiles et de choisir quelque chose de qui puisse nous entraîner à des millénaires plus tard, ou alors évidemment un univers secondaire totalement différent qui n'a aucune base avec notre monde. Donc pour moi c'est avant tout, mais dans tous les cas, il faut que ce soit crédible, on va dire, je considère en tout cas, que dans la réalité dans laquelle évolue l'histoire, enfin, les personnages qui la peuplent, etc., il faut qu'on retrouve quand même des relais ou quelque chose qui, en fait, permette de former un cadre qui soit, qui, pour le lecteur, paraisse réaliste. Pour pas justement tout de suite se dire ah ça me paraît pas possible. Il faut que ça reste possible.
Plausible ou vraisemblable, c'est hein, ça. Dans le sens évidemment dans le sens littéraire. Alors voilà, non mais Pierre là franchement grande vedette mais voilà. Non mais t'inquiète, il y a pas de souci. Alors je sais, oui, c'était un petit peu long. Donc, j'étais en train de demander, et puis tu vas embrayer après là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire futur possible pour des écrivains, entre anticipation donc, et prospective, entre anticipation et science-fiction. Alors, Jean, donc, pour vous, qu'est-ce que c'est le futur possible ? Est-ce que le futur possible est possible ?
Vaste question. Non, c'est vrai que moi, mon point de vue, il est un peu... il se situe assez proche de la science et de ce qu'on... C'est hyper troublant, c'est vrai, d'avoir la traduction à côté. Mais c'est un exercice. Non, ouais. Du coup, le futur possible, moi, c'est vrai que j'ai tendance à... Alors, j'ai beau avoir écrit un roman plus tôt en Planète Opéra, j'ai gardé quand même un lien assez fort avec ce qui est actuellement étudié par les scientifiques, par les climatologues, les océanographes, toutes ces sciences de la Terre. Et plus particulièrement, du coup, un petit peu ce que dit le GIEC, qui finalement travaille énormément sur cette notion de futur possible. Et en fait, c'est extrêmement vaste, parce que quand on regarde un petit peu ce qu'ils ont fait, c'est des centaines et des centaines de simulations et de trajectoires possibles pour notre humanité, en fonction de nos émissions de CO2, en fonction de nos choix politiques, de nos choix sociaux et de toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que de plus en plus, pour moi, les futurs possibles et la SF, j'ai presque pas besoin d'aller les chercher bien loin, parce que les scientifiques nous offrent un tel panel de possibilités que y a presque juste à piocher ce dont on a besoin et puis ben, peut-être le tordre un petit peu pour imaginer encore un peu plus loin.
Ok. James, donc aux États-Unis, comment ça se passe? Le futur possible?
We did a panel avec Lionel, était mon interprète, earlier in the festival. On the premise was that science fiction does not predict it the future; it reflects the present. Okay. And however, now we will consider the antithesis of that premise. Science fiction does participate in forecasting. So when it comes to my particular crystal ball, I see both utopian futures and dystopian futures. I think it's much harder to write a utopian future. With dystopias, you got the glamour of nihilism. You get the special effects of destruction and annihilation. The utopia is much more of a challenge, but I have undertaken that challenge with my novel in progress. It's Au sujet de changement climatique. It's a novel about climate change, and it j'ai utilisé en roman à clé, version de Greta Thunberg, elle est un des caractères majeurs. It's peut-être a kind of fusion, un mélange de Jules Verne, Voyage de la centre de Terre, et aussi Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland. Oui. Alice dans le pays des merveilles. Okay. The premise is that it's that the Hollow Earth theory, la théorie de Terre Cruise, the Hollow Earth theory, est vrai. And there is another civilization, a mirror image of our world beneath the crust of this planet. They have the opposite problem. They're facing global freezing. The core, which has kept them warm for centuries, is burning out, it's fading, and they're beginning to freeze to death. So it's an allegory, and not very subtle allegory, on the issue of climate change above. But it has a happy ending. I think it's more difficult to get away with a prediction that's optimistic. But I'm trying. C'est tout.
Alors, on avait fait une table ronde il y a quelques jours, un peu plus tôt dans le festival, où un peu l'argument qu'on a développé, c'est que la science-fiction ne prédit pas l'avenir, elle reflète le présent. Donc maintenant, on pourrait parler de l'antithèse de l'argument opposé de ça, qui est que la science-fiction, oui, elle participe aussi à l'aspect prédictif. Si je vous parle de ma boule de cristal personnelle, je vois des avenirs qui sont utopiques et je vois des avenirs qui sont dystopiques. Et c'est beaucoup plus difficile d'écrire de manière romanesque un avenir qui soit utopique. Parce que quand on écrit la dystopie, on a tout le glamour du nihilisme, on a l'état d'effets spéciaux qui vont avec les concepts de destruction et d'annihilation du monde. Alors du coup, le défi est plus important quand on écrit de l'utopie. Mais je m'y suis attelé. C'est le roman que je suis en train d'écrire qui parle du changement climatique. C'est un roman à clé qui est ce que Jim nous a dit en français, hein, qui est donc une fusion entre Le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et Alice au pays des merveilles chez Lewis Carroll. L'argument, c'est que la théorie de la Terre creuse donc est vraie. Il y a une autre civilisation qui vit sous la croûte terrestre à l'envers, qui est une sorte de reflet en miroir de notre monde. Et ils ont un problème environnemental qui est exactement l'opposé d'une autre, qui ont que, au lieu d'avoir le réchauffement global, ils ont le refroidissement global, puisque le noyau de la Terre qui les a tenus au chaud pendant des siècles est en train petit à petit s'éteindre, et le danger qui les guette, c'est qu'ils vont geler à mort. Alors c'est une allégorie du changement climatique que nous on affronte, une allégorie peut-être pas très subtile d'ailleurs, mais il y a une fin heureuse et je pense que c'est plus difficile d'essayer de faire passer dans une forme romanesque une prédiction d'avenir qui soit optimiste, mais dans ce roman je m'y efforce.
Ok,
formidable.
Merci Lionel. Alors, Pierre, on a déjà eu cette discussion, je le sais, parce que Pierre a beaucoup de mal. Pierre n'aime pas l'utopie et n'aime pas les futurs.
J'ai l'utopie.
Voilà. Il déteste. Donc, c'est vrai que souvent, les futurs de Pierre. D'ailleurs, Pierre, est-ce que tu écris sur le futur, sur une anticipation probabiliste?
Bon. Je pense que les auteurs essaient le plus juste possible dans leurs prévisions sur le futur, mais qui se plantent totalement en général, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs, surtout pour quand on fait des dystopies très très douloureuses, donc c'est mieux qu'on se plante. Alors je pense que ça exprime plutôt des peurs du présent, des angoisses générées par le mouvement du présent. Pour moi, parler du futur, c'est un effet fourmilière, c'est-à-dire que si je suis dans la fourmilière en bas, dans la rue, avec le flot des fourmis, Bernard Werber, où es-tu ? Pardon. Je ne vois pas très bien où je vais. Je suis le flot, mais je ne sais pas très bien où je vais. Pour savoir où je vais, je suis obligé de monter en haut de la fourmilière, de regarder le mouvement d'ensemble. Et là, je dis, tiens, la fourmilière se dirige plutôt dans cette direction-là. Elle va plutôt vers le fleuve, là, dans lequel elle risque de tomber, ou bien quelque part ailleurs. Et donc, je dis, attention, vous allez vers le fleuve et vous risquez de vous noyer. Donc j'ai l'impression que l'auteur de science-fiction se pose alors comme un donneur d'alerte, un donneur d'alerte pour dire attention, si on continue dans cette direction, on risque ça. Mais c'est souvent faux en même temps. Même si les gens me disent oh, mais c'est incroyable ce que vous avez dit dans Wang, dans machin, dans truc, ça évoque le présent. Parce qu'il y a deux façons d'être juste finalement. Soit on tombe pile, et d'ailleurs aucun auteur de science-fiction n'a vu venir la micro-informatique, hein, donc déjà on était quand même pas mal planté. Ensuite, on prend les deux grands exemples de dystopie, c'est-à-dire le meilleur des mondes, utopie dystopique. Celui de l'utopie finit toujours par la dystopie, il faut savoir, donc c'est pour ça que j'aime pas les utopies. Bon, bref. Le meilleur des mondes est 1984. Oui. Alors là, on a des germes de ce qui va se passer dans le futur, dans notre présent, c'est-à-dire la biotechnologie, la séparation, le tri par la biotechnologie. Oui, ça, on y arrive. Et on a, Euclève avait donné déjà les prémices en 1930 et quelques, je ne sais plus. 32, voilà. Quand vous avez une date, vous demandez à Natacha, elle connaît. Et le 1984, c'est la surveillance globale. Seulement, bon, c'est plus la surveillance soviétique avec le grand ordinateur central qui entend, voit tout, etc. C'est nos poches. Les surveillances sont devenues nos poches, nos téléphones portables, nos cartes bancaires, etc. On est tracé un peu partout. Donc oui, la surveillance globale est bien là, mais de façon différente de celle qu'avait prédit Orwell. Donc il y a des traces dans ce que disent les auteurs de science-fiction. Il y a des choses vraies, mais ça ne se passe pas forcément comme ça a été indiqué. Il marche le micro, vous m'entendez ?
Plus proche.
Donc voilà, modestement, on ne peut pas dire qu'on prédise le futur parce que c'est impossible. Tout peut changer à tout moment. Si une météorite nous tombe sur la tête, ça va changer complètement les choses. Si le Yellowstone explose, ça va changer beaucoup de choses. Si un prophète nouveau arrive et change complètement la mentalité, ça va tout changer. Tout peut changer à tout moment. C'est vrai qu'il y a des mouvements d'ensemble que je pense on va peut-être avoir du mal à enrayer, mais regardez, pendant le confinement, en quelques jours, quelques semaines de confinement, les animaux sont revenus en ville. Et c'est spectaculaire, ça. Moi, j'étais sidéré par ça. Ça veut dire que la nature reprend ses droits à une vitesse phénoménale. Ouais. Et finalement, je pense que le futur peut partir dans toutes les directions à tout moment.
Bon. Oui, c'est ça. Donc, pour Pierre, le futur possible, c'est l'arbre des possibles, en fait. Oui,
c'est à tout moment. Voilà. Tout ce qu'on fait, ça peut créer un futur.
Ce serait presque un arbre à rêve.
Quand on fait une dystopie, on va dans le passé, on change un élément. Mais dans notre présent, il y a des éléments qui vont être changés sans qu'on s'en rende compte et qui font que le futur va partir dans d'autres directions.
Ouais. Bon, merci, Pierre. Alors, Emmanuel et Jean...
J'ai de manger.
Oui, Emmanuel et Jean... est-ce que vous avez été, comme vous êtes de plus jeunes auteurs, on va dire, est-ce que vous avez été influencé par peut-être des modèles ou donc Jean, vous parliez de dimensions scientifiques et moi quand j'ai regardé votre œuvre, j'ai tout de suite pensé à La Compagnie des Glaces de Georges Jean Arnaud. Alors, je ne sais pas si le public connaît cette immense saga qui fait plusieurs dizaines de romans. Alors, qui est intéressante parce que on envisage, même si c'est pas du tout ce qui se passe dans le présent aujourd'hui, mais on envisage quand même une glaciation. Alors nous, on va plutôt évidemment vers l'inverse. Et puis j'ai pensé aussi aux ouvrages de Jean-Marc Ligny, qui travaille avec donc des climatologues. Et dans sa trilogie Exode, Semence, Aquatem, on a en fait un futur à peu près une centaine d'années. Bon, l'humain est toujours là, mais vit quand même avec une faune et une flore particulièrement difficile pour la survie de l'humain, et puis évidemment une civilisation qui s'est un petit peu érodée. Et Emmanuel, donc, vous répondrez après évidemment tous les deux. Donc, comment vous envisagez en fait le futur d'une cité? Est-ce que vous pensez qu'on va vivre dans les cités dans le futur, ou est-ce qu'on aura plutôt un réinvestissement de certaines zones périurbaine ou voilà. Donc je vous laisse répondre tous les deux.
Ouais, c'est une très vaste question. C'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué de trouver un élément vraiment fort en termes d'histoire et de futur, dans le sens où, pour reprendre l'exemple dont vous parliez. D'un refroidissement local ou d'un refroidissement comme on peut avoir vu dans certains films ou des choses comme ça, qui sont des événements qui sont pas mis complètement de côté par les scientifiques, mais qui en fait sont toutes les idées qui sont brassées par les scientifiques sont soumises évidemment au fonctionnement scientifique et donc à la validation par les pairs et à tout un tas de vérification, de réplication des expériences, toutes ces choses-là, dans l'optique de voir si effectivement cette hypothèse est robuste ou pas, par exemple celle d'un refroidissement local. Et du coup, ça arrive notamment avec la déstabilisation de l'Antarctique, dont on commence à parler un petit peu dans les médias, et qui est typiquement un très bon exemple, parce qu'il y a plusieurs modèles numériques qui estime que l'Antarctique pourrait entièrement être déstabilisée, ce qui amènerait à une augmentation très brutale du niveau de la mer de 5-6 mètres, par exemple. Le problème, c'est que...
Pardon ? Non, non.
Non, le problème, c'est que c'est... Il n'y a pas de robustesse vraiment pour l'instant dans tous ces modèles-là. Et c'est-à-dire qu'il y a une certaine divergence qui vient du fait qu'on a un manque de données, un manque d'expérience. Et ça fait que finalement, les scientifiques eux-mêmes, et le GIEC le premier, dit sur certains de ces points-là, on ne peut pas conclure. et notamment sur ces refroidissements bruts. Ils sont classés en fait par le GIEC comme des événements d'importance énorme, mais d'une probabilité très faible. Et donc ils ne peuvent pas être exclus pour autant. Et ce qui fait que, comme moi, j'essaye justement de me reposer vachement sur ces questions scientifiques, je me retrouve parfois face à un espèce d'univers, d'un futur qui est lissé par cette espèce cette recherche de consensus, en tout cas, c'est toutes ces recherches scientifiques. Donc, l'exercice, c'est d'aller chercher, pour moi, vraiment certaines documentations scientifiques un peu spécifiques et de les pousser encore un peu plus. Et là, ça devient, pour moi, des idées de romans et des histoires qui peuvent être vraiment chouettes. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne, du coup, pour... Alors, le champ des glaces, encore une fois, est un petit peu particulier parce qu'on est vraiment plus sur... on parle de glace, mais on parle pas tant du changement climatique, c'est pas le sujet principal. Mais là, dans les choses que je suis en train d'écrire actuellement, j'ai jamais lu Jean-Marc Ligny, j'ai jamais lu La Compagnie des Glaces. Je sais que ça raconte l'histoire d'un glaciologue.
Lecture. Oui, c'est pour ça. J'ai pensé, je me suis dit, voilà, là, vous avez quand même un aventurier glaciologue. Donc,
Mais ouais. C'est marrant, comme des fois, ces monuments ont du mal à rentrer dans certains domaines. Moi, j'en parlais avec mon directeur de thèse à l'époque au labo de glaciologie à Grenoble, qui n'avait jamais entendu parler de la Compagnie des Glaces, alors que on est dans un labo où il y a 30 glaciologues, quoi. Donc, c'est assez improbable. Mais du coup, non, moi, je procède directement à partir des publications scientifiques. Et comme je suis un lecteur très, très, très lent, je mets du temps à mettre à jour ma liste de lecture.
Non, mais là, avec la Compagnie des Glaces, ce sera, je pense, jusqu'à la fin de votre vie. Hein.
Ouais, voilà.
Ouais, y a des chances. Hein, parce que
du coup, c'est assez ambitieux.
C'est très long. Oui, c'est ça. Emmanuel ?
Oui, pour répondre à la question sur les villes, il faut savoir que dans le cadre en fait de Sélestopol, on est quand même dans un registre très très uchronique, avec donc l'Empire russe qui a réussi à atteindre la Lune dès la fin du 19e siècle. Et en fait, Sélestopol, c'est plus une allégorie, on va dire. On est moins dans un registre ancré dans la science, même si j'ai essayé de rester, on va dire, relativement crédible, même si le point de départ, voilà, est un peu farfelu, on pourrait dire. Mais c'est vrai que c'est plus une allégorie de l'hubris, de l'orgueil de l'humanité, parce que c'est pas du tout rentable, on va dire, pas du tout logique de vouloir en fait maintenir une cité comme ça sur la Lune, qui se veut un peu comme le phare de l'humanité, montrer ce que l'humanité est capable de faire de plus fou presque. Mais en fait, c'est pas du tout viable. Enfin, je veux dire, quelque part, la cité est presque condamnée d'avance. Et c'est vrai que dans un registre, on va dire, plus proche de qu'est-ce que pourrait être notre avenir direct. Enfin, moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait une cité sur la Lune, hein, mais en tout cas, c'est vrai que récemment, j'ai aussi écrit un chouchara chez Scrineo avec Anselme Hochkorn. Et c'est vrai que là, on est plus dans le registre de l'anticipation, où on est, avec Anselme, on a vraiment réfléchi à justement, parce que Chouchara, c'est une cité en Afrique, imaginaire. Et on a vraiment réfléchi avec mon co-auteur à justement quelles étaient les perspectives pour tout ce qui est. Justement, quel est l'avenir d'une ville, mettons dans 20, dans 30 ans, donc tout ce qui est, par exemple, comment essayer d'augmenter la part d'espace vert, comment essayer d'éviter qu'une cité se transforme en étuve à cause du bétonnage, etc. Comment aussi gérer l'alimentation en eau. Par exemple, si on prend aujourd'hui Las Vegas, déjà Las Vegas aussi, c'est une cité, on va dire, dès le départ, qui est, voilà, c'est un peu, on va dire qu'on va construire un énorme truc au milieu du désert, c'est pas forcément le meilleur emplacement. Et, du coup, là, c'est pareil, c'est une ville, Las Vegas, qui déjà a des problèmes, de gros problèmes d'accès en eau. Et c'est vrai que là, on s'est aussi renseigné sur le fait que parfois, des rivières commencent même à s'assécher. Donc, si on commence par là, quelle sera la situation dans 20, 30 ans? Comment des mégalopoles pourraient continuer à accueillir des millions ou même des dizaines de millions d'habitants dans un monde où les changements climatiques, justement, seront sûrement, probablement énormes. Là, je ne parle même pas des villes qui sont situées justement près des côtes. là ou là, bon, ben voilà, ça va être vraiment très très compliqué. Mais voilà, là, dans ce registre-là, dans Choucha, on a vraiment essayé d'être justement plus dans un registre scientifique, effectivement. Et là, je pense, à titre personnel, que ça va, voilà, il va falloir vraiment des évolutions peut-être très marquées. Pour, enfin, je pense que la ville du futur ne sera vraiment pas la ville d'aujourd'hui. Maintenant, je suis d'accord avec Pierre, hein, les auteurs se trompent souvent, et voilà, c'est une vision. Donc là, c'était la nôtre, en l'occurrence. Et c'est vrai que, ben, voilà, on peut pas, pour l'instant, effectivement, on vit le présent, et on ne peut que tirer des plans sur la comète, en essayant d'être... quand on se place dans un registre effectivement plus anticipation, essayer d'être le plus juste possible ou le plus crédible, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, bah, c'est vrai que si on est dans un registre un peu différent, comme pour Célestopol, on peut se permettre, voilà, de toucher un peu à tout, d'avoir des ambiances plus fantastiques, plus SF. Et donc là, bah, c'est vrai que c'est vrai que dans le, je m'attache plus au destin, on va dire, des gens eux-mêmes, que de peut-être la grande histoire que de toute façon qui est revisitée dans un contexte uchronique, quoi.
Alors souvent les visions en fait des écrivains ont quand même de l'importance, et là je vais citer Pierre Bordage qui parle de littérature d'habituation, c'est-à-dire que en fait les auteurs nous habitueraient en fait à une certaine forme de littérature, une certaine vision en fait du futur proche. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, parce que c'est une question qu'on ne vous pose pas très, très souvent. Mais quel futur, vous, vous souhaiteriez, en fait ? Dans quel type de futur est-ce que vous pourriez vous projeter ? Futur technologique, un futur plutôt dominé par, on va dire, une vie qui va aller vers un retour à la nature, un plus grand équilibre entre l'humain et la vie sauvage, etc. Que sais-je ? Quel est, en fait, votre fantasme de futur ? James.
Well, if you've read my oeuvre, you know that for me an ideal future would be utterly without theocracy. There would be no people who sat you down and said to you, this is what God wants. Look at President Trump over here. He was sent by God. So that's the first... the first principle of a James Morrow future would be such to recognize the childishness of that sort of discourse. I would say, for me, the best idea, or one of the best ideas humans ever had, was the city. I think cities are, in their own way, very environmentally progressive. They take the pressure off of nature. They allow nature to flourish on its own terms. So I would have us living in cities, and cities, of course, is where civilization happens. The words are allied. It's in cities that philosophy emerges. It's in cities that Isaac Newton is thinking while he's thinking all the time while he's at Cambridge. It's at cities where Einstein is working in the patent office and doing his thought experiments, his idée de pensée. You know, what if everything in the universe was falling at the same rate, a la Galileo? That would mean that I would have the illusion of standing still, even though I'm not, et cetera, et cetera. I appreciate Pierre Bordage's reservation about prediction, but I also appreciate the distinction that George Orwell makes between prediction and warning. And I think that the greatest works of science fiction do not say this it must happen. But they're saying, beware, this might happen. And these novels give us a vocabulary to talk about what's happening now, to be sure, and what may very well happen in the future. Orwell gives us
a vocabulary such as big brother and new speak and H.G. Wells gives us the story of Dr. Moreau. For me, L'Île de Dr. Moreau is a metaphor. I mean, he was writing, it's a critique of vivisection, but it anticipates the fact that we have taken the genome of ourselves and of other creatures in hand, and we have the potential to manipulate it for better or worse. So the reason I'm, with Pierre's permission, indulging in a certain kind of utopianism is that I wanted to challenge myself. And I think that cynicism can become its own sort of naivete, and pessimism can become its own sort of sentimentality. So my novel ends with a group of people, environmentalists, who become effective in politically, reversing to some degree, or at least reducing the damage from climate change. They call themselves, I don't know if this wordplay works in Francaise, en anglais, it's an allusion to the film by Steven Spielberg. They call themselves Raiders of the Lost Arctic. Say to.
The wordplay works. Alors, mon avenir idéal, déjà, ce serait un lieu complètement débarrassé de toute forme de théocratie. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des gens qui vous feraient vous asseoir devant vous et qui vous diraient « Voici ce que Dieu veut ». Regardez le président Trump, il a été envoyé par Dieu. C'est-à-dire que ça serait vraiment le premier principe d'un futur à la James Moreau, c'est que cela reconnaîtrait l'aspect puéril de ce genre de discours. Après, je trouve qu'une des meilleures idées qu'il y a eu dans l'humanité, finalement, c'est la ville. D'une certaine manière, elles ont un aspect progressif au titre environnemental parce qu'elles soulèvent, elles soulagent la pression sur la nature. Elles séparent l'humanité de la nature, elles laissent la nature faire sa vie. Et aussi, la ville, c'est l'endroit où la civilisation se produit. C'est dans les villes que la philosophie émerge. C'est dans une ville que Newton mène toutes ses réflexions, notamment à Cambridge. C'est dans son bureau en ville que Einstein mène ses expériences de pensée et qu'il y a tout un tas de réflexions qui se mènent en physique. Et si tous tombaient à la même vitesse dans l'univers, est-ce que je n'aurais pas l'illusion de ne pas me déplacer, par exemple. J'apprécie les réservations de Pierre Bordage sur l'aspect sur la prédiction de l'avenir, mais aussi j'apprécie la différence que George Orwell établit entre l'aspect prédiction et l'aspect avertissement. Et je pense que les plus grandes œuvres de la science-fiction ne sont pas basées sur un argument disant « attention, elle ne disait pas « attention, il va se passer quelque chose », mais « attention, il pourrait se passer ceci ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous a donné un mot et un vocabulaire pour articuler cette différence, ce trajet entre ce qu'on a dans le présent et ce qui pourrait très très bien se passer. Par exemple, avec 1984, il nous a donné les concepts de Big Brother ou de Novlangue, slash nouveau parler dans Nouvelle Traduction. H.G. Wells, quand il écrit le docteur Moreau, ça commence à l'époque, c'est une métaphore et c'est une critique de la vivisection, mais également ça nous donne des éléments pour réfléchir au fait que, par exemple, on prend notre génome et celui des animaux et nous avons la capacité de les manipuler, peut-être de les mélanger pour le meilleur et pour le pire. Alors, dans le roman là, sur lequel je suis en train de travailler, donc avec la permission de Pierre, je suis malheureusement en train d'écrire une utopie où je me suis fixé un espèce...
Bonne chance.
Pierre tells you good luck for the utopia. J'ai vraiment essayé de me pousser, de me fixer un défi parce que ce qu'on peut avoir dans la science-fiction parfois, il me semble que le cynisme peut devenir sa forme de propre naïveté, que le pessimisme peut devenir une forme de sentimentalisme. Et le roman termine avec des activistes environnementaux qui se trouvent finalement être politiquement efficaces et qui réussissent à inverser ou au moins réduire leur changement climatique. Et donc il y a un jeu de mots qui fonctionne en français, où ils se considèrent comme un peu les aventuriers de l'Arctique perdu.
Donc, Jean-Emmanuel, alors, votre futur enviable à tous les deux, vos visions du futur.
C'est très intéressant comme question, parce que justement, moi, j'apporterai peut-être une petite variation avec ce que tu viens de dire, par rapport au rapport qu'on entretient avec la nature. Et même cette notion de nature, et c'est un sujet pour lequel je me suis un peu renseigné, et sur lequel je discute un petit peu dans un texte que je suis en train d'écrire, où justement ça se passe, on est plutôt à un horizon 2500, le changement climatique est passé par là, on essaie de reconstruire notre monde, et du coup pour reprendre un peu ce que dit Alessandro Pignocchi, je ne sais pas comment on prononce, où il a fait un petit livre sur la recomposition des mondes, et ce terme il est chouette, où l'idée c'est de repenser notre rapport à la nature, non pas comme un rapport d'usage, mais comme un rapport de collaboration, de coopération, de compétition, mais en fait comme un où il n'y a pas un rapport de domination d'une culture sur la nature. Et pour moi, ça c'est un des... Je pense que ça demande un changement de paradigme par rapport à tout le système dans lequel on baigne depuis le 19e, ouais, depuis très longtemps. Et donc je pense que c'est pas facile à faire, à opérer comme changement, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'on est très nombreux sur cette planète. Et avant de penser à tout un tas de mesures de limitation de population ou des choses comme ça, comme on peut souvent en entendre parler, et ben peut-être commencer simplement aussi par repenser un petit peu le rapport qu'on a, et plus forcément non plus opposer culture-nature, réfléchir un petit peu en ce sens-là, quoi.
Oui, moi je dirais qu'en fait, je suis d'accord avec Jean, c'est une très bonne question. C'est qui n'est pas facile à traiter, c'est vrai. Mais alors moi, j'ai pas de vision idéalisée en fait de l'avenir. Je dirais que ça dépend plus, c'est plus au jour le jour. Il y a certains matins, je me réveille et c'est vrai que je suis plus, je me dis que de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je voudrais pas malheureusement, j'aimerais pas l'avenir qui se profile. Et c'est vrai que voilà, selon certains jours, j'ai une vision plus ancrée, dans la réalité justement. Dans l'anticipation que j'évoquais tout à l'heure pour Chouchara, et d'autres moments où j'ai quand même envie un peu de laisser toute sa place, on va dire, à l'espoir, et où là c'est vrai que j'ai une vision peut-être plus plus virant vers l'utopie, mais où j'aimerais forcément un avenir où l'harmonie, on va dire, là, pour reprendre un peu ce que tu disais sur la nature et l'humanité, par exemple, où l'harmonie est une place beaucoup plus importante, quelque chose où la science aussi ait toute sa place. Parce que moi, je reste, c'était pas exactement ma génération, mais c'est vrai que je reste fasciné par l'exploration spatiale, par exemple. Mais pas pour le tourisme spatial, hein, vraiment l'exploration, tout ce qui est relié avec tout ce qui est de nouvelles découvertes, etc. Un esprit quand même d'aventure. Alors que là, c'est vrai qu'on est plus à essayer de décoper un canot qui est déjà peut-être en train de prendre l'eau de façon irrémédiable. C'est vraiment pas très optimiste.
C'est joli comme utopie.
C'est pas une utopie. Pour le coup, c'est les jours où ça va pas. j'ai pas de vision fixe parce que justement, comme le disait Pierre. On évolue dans le présent et on est quelque part prisonnier de cette réalité où finalement un jour après l'autre, un jour ça passe, c'est quelque chose de tellement insaisissable qu'on peut, on le voit bien avec les grandes décisions qu'il faudrait prendre, il y a une telle inertie qui fait que même une décision prise aujourd'hui mettra peut-être 10, 20 ou 30 ans à avoir des répercussions, mais c'est viable et bénéfique, mais quelque part c'est pas pour autant qu'il faudrait pas le mettre en place maintenant, parce que justement sinon plus on attend, voilà. Mais j'ai pas de vision rêvée, ça varie trop selon mon humeur.
C'est la certitude de la vie.
C'est ça.
I have a dream. Non, je rêve évidemment, ça m'arrive de rêver d'utopie. Les écrire, c'est une autre chose. Faut pas être effrayé. Je n'ai pas de goût à écrire. Parce que, effectivement, comme disait James tout à l'heure, j'adore l'esthétique de la destruction. Donc, c'est sûr que dans l'utopie, c'est pas l'esthétique de la destruction. Si je devais avoir mon futur idéal, ce serait que l'être humain découvre l'humanité.
Waouh !
Incroyable ! C'est-à-dire, on parle déjà de post-humanité, de surhumanité, de tout ce qu'on veut de l'humanité, mais on n'a pas trouvé l'humanité. Je ne pense pas qu'on soit allé au bout de l'humanité. Et mon futur rêvé, ce serait celui d'être humain, véritablement humain, c'est-à-dire débarrassé de tout un tas de conditionnements qui les pousse à commettre pas mal de conneries, il faut reconnaître. Donc, comment on fait ça? C'est ça la question, comment on fait ça? On se rend compte que dans l'Antiquité, c'était pareil déjà. Je pense qu'aussi loin qu'on remonte et qu'on trouve des êtres doués de conscience, on va Caïn tue Abel direct. La Bible, qui pour moi est une sorte de c'est pas un livre religieux, vraiment, c'est un livre symbolique, mythologique, qui décrit un peu l'être humain, ou bien les mythologies grecques et tout ça, ça montre déjà toutes les turpitudes humaines. Et comment on se débarrasse de ces trucs-là? Où est-ce qu'on a envie de continuer à vivre avec ça? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a envie d'avoir plus de fric? Et pour avoir plus de fric, on va écraser une certaine partie de la population? Est-ce qu'on va continuer à nourrir nos malheurs, ou bien est-ce qu'on peut penser à autre chose? Alors, c'est ça, moi, je pense qu'on a une pensée qui est rayée, quelque part, comme un disque rayé qui revient tout le temps. Il y a un mécanisme qui se met en route et qui se reproduit en permanence. Regardez La ferme des animaux d'Orwell. Il montre parfaitement ce mécanisme qui est les êtres opprimés se révoltent, prennent le pouvoir. Parmi les êtres opprimés, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus malins que les autres, qui deviennent les patrons et qui, à leur tour, font régner un peu la terreur par rapport à leurs anciens camarades. C'est exactement ce qui s'est passé dans la Révolution française. Outre que c'est une vache à lait qu'on n'a pas le droit d'égratigner parce que c'est notre acte fondateur, quand on regarde bien la Révolution française, c'est quand même 3 ans de laboratoire monstrueux, hein. À mince égard. Hein. Ce n'est pas parce que je suis vendéen que je dis ça, mais quand même un peu. Voilà, donc, est-ce que ces mécanismes, on pourrait les étudier? Et comment on peut étudier ces mécanismes? Donc, je pense que l'auteur, il a ce rôle-là d'explorer toutes les facettes de l'humanité pour voir comment ça fonctionne. Donc, ce qui veut dire qu'un auteur, à mon avis, il ne doit pas juger ses personnages, il ne doit pas prendre parti pour ses personnages, mais doit les explorer en toute humanité pour voir, justement, essayer de distinguer les mécanismes et dire, plus que des prédictions sur le futur, de les ramener à ses contemporains. C'est comme plonger dans le grand fleuve humain, vous puisez des choses au fond, vous ramenez des trucs, des cailloux, de la boue, vous l'emmenez à la surface et puis vous dites, ben, c'est pas beau, ou bien, ouais, tiens, c'est intéressant. Mais on le donne à voir. Et quand on le donne à voir, on a déjà résolu une solution, une partie du problème. Quoi. Donc, voilà, si je devais avoir ce futur rêvé, ce serait celui-là. Nous étudions nos mécanismes en nous aimant, pas en nous détestant, parce que c'est vrai que quand on découvre des aspects de soi-même qui ne sont pas agréables, on a tendance à se détester et à devenir encore plus violent et plus injuste. Donc, en s'aimant, en disant « Oui, je suis comme ça, c'est vrai, je me regarde et je suis un vrai connard sur certains aspects. Je suis quelqu'un de très bien sur d'autres aspects. » Et si tous les humains faisaient ça, cette simple façon de se regarder dans le fond de l'âme, je pense qu'on aurait résolu une grande partie du problème. Mais bon, c'est un rêve, je dis. Hein.
Oui, donc un petit peu regarder les monstres qui sont en nous pour mieux les connaître et mieux finalement peut-être y échapper. Alors, je regarde le temps qui passe parce que je sais que Lionel doit partir. Donc, on va peut-être passer directement en fait aux questions du public. Est-ce que vous avez donc des questions à poser? C'est le moment. Alors, je ne sais pas si on a... Tu dois partir maintenant? Bon, d'accord. OK, ben on va se dire... Quelqu'un peut nous aider peut-être pour la traduction, pour James, s'il veut répondre dans le public? Oui, eh ben, allez-y alors. Allez, on vous met dans le bain de suite. Merci beaucoup. Alors, allez-y. Je crois qu'on n'a pas de, on n'a pas de micro pour le public. Bon, alors vous allez vous lever puis parler. Voilà, très bien. Oui, et quel est votre futur justement possible par rapport à ça? Allez-y.
Justement, un futur où on donnerait plus de place pour qu'il y ait de l'expression pour toutes les personnes différentes, toutes les façons d'être différentes. Parce que j'ai rien contre les hommes blancs. D'ailleurs, j'ai lu Le Chant des Glaces et je veux dire qu'au niveau personnage féminin, j'ai rien à reprocher. Mais il faut une diversité de vision parce qu'il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte. Ne serait-ce que par exemple, quand on regarde comment sont créées les îles, comment est-ce qu'on rend les choses accessibles à tout le monde. Parce qu'un exemple très bête, c'est comment est-ce qu'on fait quand on a besoin de faire passer une poussette quelque part. Comment est-ce qu'on fait quand on est handicapé, qu'on va à Paris et qu'on remarque qu'il n'y a qu'une ligne de métro qui est accessible. Finalement, j'aime tous ces univers qu'il nous faut que je les reprends, mais c'est tellement important de parler du quotidien.
Je voudrais vous corriger sur un point. Il n'y a pas quatre hommes blancs ici, il y a quatre auteurs. Et ce seraient des femmes blanches, des femmes noires, des hommes noirs, ou ce seraient des auteurs. Je pense que les auteurs, si vous les catégorisez, ça voudrait dire qu'on est capable que de parler de préoccupations masculines et blanches. Or, je ne suis pas d'accord avec vous. Je peux aussi parler des préoccupations féminines. Je peux parler des préoccupations de d'autres ethnies, d'autres... Je ne vais pas dire le mot race parce que je sais qu'il est connoté. Mais donc non, moi en tant qu'auteur, je ne suis pas un mâle blanc. Je suis un auteur.
Pour me corriger juste un peu, je suis d'accord qu'on peut parler des autres, il y a des gens qui le prennent en compte, qui le font et qui le font bien, mais on n'aura jamais autant de diversité qu'on ait une diversité de personnes qui écrivent.
Bien sûr, mais vous êtes la bienvenue. Je veux dire, si vous écrivez des bouquins, soyez publiés, vous serez là à notre place et je serai très content. J'ai rencontré Octavia Butler, qui était une femme noire américaine qui écrivait de la science-fiction. Mais j'ai trouvé ça génial, quoi. J'ai trouvé ça fabuleux d'avoir cette voix-là, qui était une voix gospel dans la science-fiction, que c'est super rare. Et moi, je suis ravi. Moi, je suis pour la diversité à fond. Venez tous et puis parlez de vos futurs et tout. Mais nous, on est invités parce qu'on est publié. Bon, voilà. Mais j'espère que. Hier soir, il y avait la remise des prix. J'ai remarqué que sur tous les finalistes des prix, il y avait une majorité de femmes. Bon, il n'y a pas beaucoup d'auteurs noirs en science-fiction, et je le regrette, parce que les noires américaines sont vraiment très enrichissantes sur les comme, je ne sais plus son nom, là, celle qui a eu un prix hier.
Timothy ?
Non, Sophie Okafor. Ah, oui. Okafor, voilà. Donc, ouais, moi, je suis pour la diversité des voix. Et puis, j'espère que la SF se répandra partout dans le monde, qu'on aura une SF arabe, qu'on aura une SF turque, qu'on aura une... Ouais, un peu. Ouais, ouais. Mais bon, elle n'est pas connue, quoi. Elle n'est pas traduite en français. Qu'on aura une SF chinoise, elle est déjà très, très importante. Enfin, etc. Moi, je suis pour à fond. Hein.
Alors, justement, on parlait à midi pour vous répondre une minute sur ce sujet. Il faut réfléchir aussi en termes de masse. C'est-à-dire que si on veut plus de femmes, plus de diversité, par exemple, dans les domaines de l'écriture, etc., il faut qu'au départ, il y en ait plus statistiquement parlant. Or, on est au début d'un mouvement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus, effectivement... D'abord, on a eu de plus en plus de lectrices. Et puis, dans ces lectrices, on va avoir de plus en plus de femmes, d'autrices, qui vont se révéler. Et puis, dans ces autrices, on va peut-être avoir de plus en plus de femmes diverses, de femmes noires. On a, dans nos auteurs, par exemple, à Bordeaux, Mouton électrique, nous avons une jeune femme qui est effectivement handicapée, mais qui est prof, qui assume totalement sa situation. Et quand elle est là, justement, elle parle de ce quotidien que vous évoquiez, qui est extrêmement, extrêmement compliqué. Mais je crois que ça, voilà, les représentations, elles vont évoluer parce qu'il va y avoir cet effet de masse. On est dans un contexte qui est en train de largement changer. Mais je pense que ça ne peut pas venir, si vous voulez, même si on fait des efforts faramineux, il y a quand même encore un problème statistique, un problème de nombre. Donc, on va pousser pour qu'il y en ait de plus en plus et qu'elles soient surtout visibles, parce qu'il y a aussi un problème de visibilité. Hein. Je rappelle que dans les médias, il y a 14% de femmes. Moi, j'appartiens à un groupe qui s'appelle Les Expertes, où tous les chercheurs, enfin les chercheuses d'ailleurs sont, et puis pas que les chercheuses de l'université, hein, il y a aussi toutes les femmes qui sont spécialistes, expertes dans la vie civile. Et donc il y a vraiment un mouvement de fond pour rendre beaucoup plus visibles les femmes, parce qu'il y a non seulement un problème de nombre, mais il y a aussi un problème de visibilité. Voyez, donc une fois qu'on aura, je pense, essayé de lisser ces deux problèmes-là, ben, il y aura ces voix diverses vont bien sûr enrichir nos futurs possibles. Ça, c'est clair. Mais il faut un peu de temps quand même. Vous voyez, on ne peut pas changer tout du jour au lendemain, même si on a attendu très longtemps. Je suis parfaitement d'accord avec vous.
Ouais, globalement, tu as dit ce que je voulais dire aussi. Mais ouais, il y a effectivement un point, je pense, qui est important aussi et duquel on peut parfois, bah, vu qu'on est aussi sur soi-même avec ses propres biais, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a aussi juste l'impression qu'on donne. Et effectivement, je peux comprendre ce que tu dis, que face à toi, effectivement, tu as quatre personnes qui sont, c'est vrai, ouais, des auteurs, et je me vois aussi comme ça, mais qui en tout cas renvoient aussi l'image de quatre hommes blancs. Et je peux comprendre que ça, ce soit aussi une partie du problème. Effectivement, derrière, ça ne nous empêche pas d'avoir aussi des idées qui, je pense, sont totalement ouvertes et qui essayent d'aller vers une meilleure tolérance des uns envers les autres, tout genre confondu, quelle que soit la situation. Mais je pense que ça prend aussi du temps et c'est important de l'afficher. Ouais.
Ouais, tout à fait. Puis on n'oublie pas que le futur de l'homme, c'est quand même la femme. Hein. D'accord.
J'ai une idée.
Voilà. James.
I very much appreciate your question. You're making a terrific point.
Oh, okay. Il apprécie la question vous avez raison de le souligner.
In my forthcoming novel au sujet de changement climatique, je suis un satiriste, et c'est mon genre de satire. And there are a group of white men who decide they're going to solve the problem of climate change, both above, that is our civilization, which is in thrall to global warming, it's getting hotter, and also below in my Quandonia, in my world of global freezing. And this group of white men, with the help of kind of engineering technology that is emerging. They say it's très simple. It was simply reverse the crust of the Earth. We'll put Quandonia on top, and they'll get the sun, and then we'll put our civilization underneath, and we will finally cool off.
J'essaie de me souvenir de tout. Dans son prochain livre, donc c'est un groupe d'hommes blancs justement qui se dit ça va être très simple de résoudre le problème, puisque le problème existe, le problème est inversé en fait, c'est ce qui se passe sur et sous la croûte terrestre en fait. On va simplement inverser les deux endroits, comme ça ceux qui ont un problème de réchauffement, ils pourront refroidir tout simplement, et ceux qui ont un problème du coup inversé, le soleil pourra les réchauffer.
Merci, très bien. Parfait.
Et plus que de catégories mâle, blanc, noir, ça, c'est, nous sommes tous conditionnés d'une façon ou d'une autre. Nous avons tous nos propres. C'est ce qui est intéressant, c'est d'observer ses propres conditionnements, quel qu'on soit, quel genre qu'on soit, s'il y a un genre, je ne sais plus s'il faut genrer ou pas, je suis un peu largué. Mais bon, voilà, on a tous. Un conditionnement historique, un conditionnement familial, un conditionnement sexuel, un conditionnement, etc. Donc, on est manipulé par des choses à l'intérieur de soi. C'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant de repérer. C'est qu'est-ce qui nous manipule ? Qu'est-ce qui m'empêche d'être réellement moi, finalement ? Et je pense qu'on a tous à faire ce boulot. Donc, moi, en tant que... Je pense qu'on est quatre mâles ici blancs. Mais quatre mâles blancs différents. Ne lui pense pas comme moi. D'ailleurs, tu peux pas. C'est pas possible. C'est trop le bordel là-dedans. Jean, il est différent. James, il est très différent. Mais d'abord, il est américain. Donc, donc voilà, on a déjà une brochette de gars qui sont différents les uns des autres, quoi.
et qui parle des choses différemment, qui parle dont les bouquins sont différents, dont l'écriture est complètement différente. L'écriture, c'est la musique intérieure, la musique de l'âme. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut multiplier ces musiques, c'est ça. Il faut multiplier ces points de vue, ces musiques, pour qu'on ait une vraie symphonie globale. Ça, je suis d'accord. Ouais.
Oui, non, je voulais juste dire sur le quotidien, je suis d'accord aussi que, voilà, enfin, finalement, quel que soit le canal d'expression, que ce soit la science-fiction, la fantasy, n'importe quoi, il faut que ça serve aussi à ça. Enfin, je veux dire, on peut être très, vraiment sensibilisé à des problématiques, mais effectivement, le handicap, l'émancipation, enfin, je veux dire, il y a évidemment le racisme, il y a tellement de sujets qui méritent de prendre voix et d'être portés, je pense, par le maximum de monde. Et c'est vrai que là, j'avoue, j'ai juste répondu à une invitation. Mais pour le coup, je partage l'avis que effectivement, le quotidien, enfin, voilà, il y a des choses qui au quotidien nous émeuvent ou nous mettent en colère. Et je pense que l'écriture sert aussi à l'exprimer, quelle que soit la forme, quel que soit le genre. Finalement, là aussi, on s'en fout du genre. Voilà, je veux dire, c'est avant tout, je pense que c'est des voilà, c'est des personnes, des voix qui doivent s'exprimer et voilà, et faire résonner aussi le message et leurs envies de combat, de liberté, d'émancipation, enfin tout ce qu'il y a à dire par tout le monde.
Ok, merci Emmanuel. Alors, il est très exactement 3 heures, donc.
Parce qu'on avait l'impression qu'on représentait les GAFA là d'un seul coup.
Ouais. Est-ce que éventuellement il y aurait une autre question ou est-ce que oui?
Bonjour.
Peut-être juste répondre sur un point. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, ça me fait penser à une phrase de Nietzsche, histoire de caser un peu du Nietzsche, là, d'un coup, bim. Non, où il dit, il n'y a pas de connaissances, il n'y a que des interprétations. Et justement, du coup, ça ouvre, pour moi, de manière très claire, notamment à l'art. Mais en fait, c'est juste aussi prendre en compte que la science, ce n'est pas une réponse à tout, c'est clair. Il faudrait, c'est évident que il y a des choses, en l'état, il y a tout un tas de mécanismes, que ce soit dans le climat ou ailleurs, qu'on ne sait pas expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas l'expliquer un jour, mais il faut garder quand même, effectivement, une certaine distance avec un monde avec que des scientifiques, mais ce serait insupportable.
Donc, la science-fiction l'a déjà inventée avec les Jeux de l'esprit de Pierre Boulle.
Et ben voilà.
GSM, gouvernement scientifique mondial, je spoil rien, hein, c'est un roman qui date du début des années 60. Et en fait, comme plus rien ne va dans le monde, on dit on va donner le pouvoir aux scientifiques. Donc les scientifiques très rationnels organisent le monde. Sauf que les gens s'ennuient terriblement, se suicident par dizaines de milliers. Et donc je ne vous raconte pas la fin, il faudra le lire. Mais enfin, c'est pas du tout un gouvernement idéal d'après Pierre Boulle. Voilà. Alors, Boulle, l'auteur de La Plaine des Singes, hein, pour ceux qui connaîtraient.
Alors bien. Moi, tout au long de ma thèse, j'étais vraiment du coup entouré de scientifiques. Je me suis jamais senti à ce point au bout de ma vie, mais clairement, oui, je pense que ça a aussi amené des choses qui sont tout à fait répréhensibles. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez naturel à l'humain d'essayer de comprendre et on observait les étoiles il y a très longtemps pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on continue à faire.
Vachement marrant le Covid. Enfin, la vision à la télévision de la crise, où il y avait une sorte de match où on mettait le nombre de morts par jour, le nombre de contaminés par jour. Ça faisait comme une sorte de résultat sportif. Et il y avait des gens qui se présentaient sous les comme des grands scientifiques de la chose, et qui se contredisaient allègrement, mais qui défendaient leur point de vue comme des dogmes. Et la science, elle a aussi ce défaut d'être comme la religion, qu'elle a remplacée d'ailleurs, à mon avis, et de faire avec des espèces d'évêques ou de cardinaux, qui sont les grands scientifiques, dont la parole est presque sacrée. Et ça, c'est, je pense, très dangereux, parce que on l'a vu, l'espèce de désordre que ça a mis dans la gestion de la crise du Covid, ou de la Covid, je ne sais pas, c'est non-genré, mais bon. Je pense qu'il faut qu'elle... parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et la physique quantique nous a rappelé qu'on était quand même dans des principes d'incertitude, et il faut garder cet esprit d'incertitude tout le temps, de dire... Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce qu'on ne va pas aller trop loin? Et deuxièmement, par rapport à la science, il y a un truc qui s'appelle l'économie derrière, qui souvent chapeaute les laboratoires scientifiques et donc exige des résultats. Donc la génétique, il va falloir faire très attention, parce qu'à partir du moment où les gens voudront les enfants des yeux d'une telle couleur ou avec telle santé ou avec tel truc, ça va se faire. Ça va se faire parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour ça. Tu as parlé de tourisme spatial, ça se fait. Donc, il y a des impératifs économiques qui vont rendre la science très dangereuse, parce que des impératifs économiques ne nous donnent pas le temps de réfléchir. Il va y avoir des moratoires pour tout. Et on n'a pas le temps, là. Et ça va être extrêmement dangereux, je pense.
Voilà, bon, je vais être obligée d'arrêter, parce qu'il est déjà 5, on va être en retard. Voilà, donc on vous remercie beaucoup d'être venu pour encore une fois une table ronde très ouverte. Merci de vos remarques. Et puis l'avenir est ouvert.